best-seller en partenariat avec l'Heureux Séjour.
Bernard Werber, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier roman qui s'appelle La valse des âmes chez Albin Michel. Je voudrais qu'on parle pour commencer de ce titre très poétique et très joli. Ça donne l'impression que les âmes se baladent comme ça entre le ciel et la terre. C'est ce que vous pensez, Bernard Werber?
Alors disons que l'hypothèse du livre, c'est qu'on se réincarne vie après vie et qu'on revient, un peu comme le baccalauréat. Si vous n'avez pas réussi, vous pouvez le redémarrer. Et chaque fois, vous apprenez quelque chose. Et l'objectif pour l'âme, c'est d'évoluer pour s'épanouir. Et lorsqu'elle a réussi, elle est libérée du devoir de revenir pour passer le bac, on va dire.
Alors, on comprend effectivement qu'elle est libérée de ça, mais surtout qu'elle a la possibilité de faire beaucoup plus que ce qu'on pourrait éventuellement imaginer, puisque dans le roman, on apprend qu'a priori, il y a 25% d'hérédité, 25% de karma et 50% de libre arbitre. C'est donc très optimiste pour nous humains, Bernard Werber, parce qu'en gros, on décide quand même beaucoup de notre vie.
Oui, avec les 50% libre arbitre, on décide de la répartition. Donc, on peut faire 100% de l'hérédité. Par exemple, si vous êtes cordonnier, vous reprenez le boulot de vos parents. Donc, vous avez juste repris la formule. Ou vous pouvez faire 100% de karma, vous reprenez votre vie précédente. Ou vous pouvez faire 100% de libre arbitre aussi. Dans ce cas, vous n'êtes plus influencé par ni votre hérédité, ni votre karma. Vous êtes juste un électron libre qui prend des décisions. J'aime bien cette idée de voir ce qui nous influence et de voir est-ce qu'on a envie d'être libre. Je crois que beaucoup de gens vont à la facilité et se laissent porter soit par l'hérédité, soit par le karma. Et il y en a très peu qui sont capables d'assumer leur 100% libre arbitre.
Alors, il y a également dans ce roman quelque chose qui ressort beaucoup, c'est que chacun aurait une mission sur Terre et
Oui.
c'est pour ça que les âmes, une fois qu'elles l'ont terminée, peuvent remonter finalement et avoir des choix. On ne va pas enlever le suspense de ce qui est sympathique là-dessus dans le roman. Est-ce que vous avez cette impression, vous aussi, Bernard Werber, d'une mission sur Terre et peut-être celle de devoir être romancier?
Ça peut paraître un peu prétentieux. Je crois que j'ai ma mission est d'essayer de comprendre ma mission. C'est pour ça que j'écris des romans où mes personnages essaient de comprendre aussi leur mission. Peut-être que vous-même, Lise, vous essayez de comprendre votre mission et votre mission consiste à interviewer, à faire de la radio, à communiquer. Je crois que déjà se poser la question quelle est notre mission sur Terre, c'est déjà faire plus de la moitié du travail. Le contraire, ça consiste à ne pas se poser cette question et de se dire, bon, ben, écoute, je vais essayer de gagner ma vie, je vais essayer de m'amuser, et puis je vais essayer d'avoir une bonne retraite, et puis voilà. Et dans ce moment-là, on passe peut-être à côté de sa vie. Il y a, dans le roman, je mets un système qui est qu'au moment où on meurt, on est accueilli par trois archanges et qui vous posent trois questions, et les trois questions me semblent déterminantes. La première, c'est qu'as-tu fait de tes talents? La deuxième, c'est qui as-tu aimé? Et la troisième, c'est qu'as-tu appris? Et je crois que c'est les trois choses importantes qu'on va se poser à la fin de sa vie. On va se demander est-ce que j'ai découvert mes talents? Est-ce que je les ai utilisés? Ensuite, est-ce que j'ai vraiment aimé? Et enfin, qu'est-ce que j'ai appris? C'est un peu comme reprendre l'image du bac, si vous avez passé l'examen, pourquoi vous avez échoué et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux la prochaine fois. Mais l'idée que nous avons une mission d'âme me semble une idée très intéressante. Chacun à notre petit niveau, nous pouvons influer le monde. Nous ne sommes pas juste passifs. Nous pouvons influencer les autres. Nous pouvons transmettre des informations, transmettre des questions, transmettre de la spiritualité, aider. Et c'est un peu pour ça qu'on est né. Sinon, on reste juste devant la télé ou on fait juste que jouer à des jeux vidéo et puis on attend que ça passe, quoi. Mais ça me semble dommage.
Alors, c'est un roman qui est très spirituel, Bernard Werber. Souvent, hein, c'est le cas, mais d'un côté, on pourrait dire que c'est proche du judaïsme, mais aussi du bouddhisme, de plusieurs autres spiritualités, mais pas tellement de références de Dieu, même si c'est un roman spirituel.
Dieu, pour moi, c'est la dimension au-dessus. Comme pour, je sais pas, pour un atome, la dimension au-dessus, c'est la molécule. Donc après, est-ce que les atomes vénèrent les molécules? Je dirais, c'est le niveau de conscience et de complexité au-dessus. Maintenant qu'on le résume à cette vision ancienne d'une sorte de papa barbu qui nous regarde et nous juge, ça me semble pas la bonne image. Je dirais, c'est le niveau de conscience supérieur. Maintenant, moi j'utilise une image intermédiaire qui est l'ange. Donc il y a des anges, il y a des archanges qui sont les intermédiaires entre la dimension du dessus et nous. Mais en effet, j'utilise peu le mot de Dieu. Il me semble qu'il a été trop utilisé. D'ailleurs, le mot amour et le mot Dieu ont été tellement usés que je crois qu'il faut trouver de nouveaux angles pour parler de ça.
Bernard Werber, il y a un combat clair et net du bien et du mal
Oui?
dans ce roman, et c'est pas gagné parce que si on perd, c'est l'apocalypse tout de même. Donc
Oui.
l'enjeu est carrément important, rien de moins que ça.
Oui, bah, j'aime bien ce concept qui est annoncé dans la Bible. C'est déjà les prophètes Zacharie, Isaïe qui avaient annoncé, le terme exact c'est eschatologie, c'est-à-dire l'annonce de la fin du monde. Et pour un roman, c'est toujours amusant d'utiliser cette image que nous allons arriver à un point où tout va être bouleversé. C'est quoi ce point dans le tarot à l'arcane 13? L'arcane où tout s'inverse. Mais l'arcane 13 n'est pas la dernière carte, c'est l'arcane du milieu. Et ça signifie juste que nous vivons des bouleversements qui nous obligent à nous remettre en question.
On revient avec ces expériences de vie. On avait vu René Toledano dans le précédent roman. Ce coup-ci, on a Eugénie qui est sa fille, avec la même hérédité et la même capacité méditative à se projeter comme ça dans ses voyages intérieurs, dans ses vies passées. Est-ce que c'est vraiment possible, Bernard Werber, quand on est un grand méditant, d'arriver à avoir des glimpses comme ça de ses vies passées?
Alors, moi j'ai fait une fois l'expérience de VIE, de voyage intérieur expérimental, et j'ai adoré ça. Et en tant que romancier, je ne suis pas obligé de vérifier les choses. Je suis obligé de prouver ça scientifiquement. Ce que je vois, c'est que quand je l'ai fait, je me suis retrouvé dans un film. Ça durait 1 heure et demie et j'avais plein d'idées et plein de détails. Donc je me suis dit, c'est la très bonne base pour écrire des histoires. Donc mon héroïne, Eugénie Toledano, va se retrouver elle aussi à revenir dans ses vies antérieures et faire la même expérience que moi. Mais c'est aussi une expérience que je propose dans un spectacle qui s'appelle VIE et que j'ai joué récemment à l'Olympia. Et où toute la salle s'est retrouvée les yeux fermés à tenter de revenir à la vie antérieure. Il y en a à peu près 60% qui ont réussi. Et ils ont raconté, c'était vraiment extraordinaire. Donc je ne saurais jamais si c'est vrai ou pas, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que je sais qu'on peut faire l'expérience et ça, je crois que ça marche sur certaines personnes et ça marche pas sur d'autres.
Dans ce livre, Bernard Werber, il semble qu'il y a une acceptation de la mort que je trouve très sage et assez difficile à avoir finalement quand on est un être humain aussi jeune que votre héroïne Eugénie.
Acceptation de la mort, c'est plus facile quand on se dit qu'il va y avoir quelque chose après. Si on se dit après cette vie, il va y avoir une suivante, ça devient moins grave. Si on se dit après cette vie, il n'y a plus rien, ça devient terrible. Donc le concept de métempsychose, c'est-à-dire de vie après la vie, est un concept qui entre autres a été développé par Pythagore, mais qu'on retrouve dans la religion juive, c'est le Gilgoul, le cycle des âmes. Et cette notion n'est pas que hindouiste ou bouddhiste, elle est vraiment une notion qu'on retrouve partout, même chez les Indiens d'Amérique, même en Afrique, cette idée que notre âme peut être libérée du corps et renaître dans d'autres corps. Et pour un romancier, c'est vraiment un concept vraiment intéressant, ce qui permet en effet de faire qu'on a moins peur de la mort. Mais moi-même, quand je serai à quelques secondes avant ma mort, je serai dans, bon, ben on va voir s'il y a quelque chose après ou s'il n'y a rien, mais je serai dans le questionnement et l'expectative.
Il y a des références aussi à l'état actuel du monde et à l'actualité qui n'est pas forcément sympathique. Même si ce n'est pas la priorité de ce roman, vous aviez quand même envie d'alerter sur un certain nombre de choses et notamment l'alliance entre les fascistes et l'extrême gauche potentiellement sur le dos de la liberté et de la démocratie.
Oui, je crois que de tout temps, il y a une lutte entre l'obscurantisme et les forces de lumière. Et après, ces forces de l'obscurantisme apparaissent sous des formes, sous des étiquettes différentes, mais ce sont les mêmes. Staline était un dictateur, Hitler était un dictateur, et en fait, ils s'entendaient bien, même s'ils étaient censés être opposés. Il y a eu quand même le pacte germano-soviétique qui a montré que finalement tous les totalitaires et tous les salauds s'entendent. Maintenant, il faut que les forces de la liberté, de la démocratie arrivent aussi à s'entendre. C'est-à-dire si d'un côté, ceux qui défendent des valeurs d'émancipation sont divisés et ceux qui vont défendre des valeurs totalitarisme sont unis, le combat risque d'être perdu. Je voulais juste faire prendre conscience de ce danger, mais ce danger s'est toujours produit. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire, il y a toujours eu des forces d'obscurantisme qui ont lutté contre les forces de lumière. Jusqu'à présent, les forces de lumière ont vaguement sont arrivées à gagner, mais il n'y a pas de garantie que ça dure toujours. Et je voulais alerter sur le fait de rester vigilant et donner des exemples où, dans le passé, les forces de la démocratie se sont endormies et du coup se sont laissées submerger par les forces totalitaires.
Vous l'avez dédié aux amoureux des livres. Est-ce que vous êtes inquiet, Bernard Werber, de leur disparition?
Oui, je crois que c'est un combat très ancien des gens de la mémoire et du livre contre ceux qui veulent réécrire l'histoire et qui veulent empêcher les gens de s'instruire. C'est un combat très ancien entre l'obscurantisme et les forces de la lumière. Et c'est ce combat que j'évoque dans La Valse des âmes, à travers des familles d'âmes qui se retrouvent vie après vie pour participer à cette lutte. J'ai l'impression que le livre est un objet qui doit être défendu, que ça, il est attaqué de deux manières. Il est attaqué par ceux qui veulent empêcher les livres et la diffusion des informations, mais aussi par le fait qu'il y a de nouvelles technologies qui, comme les smartphones ou les ordinateurs ou la télévision, qui font qu'on n'a plus besoin de faire l'effort de lire. Et donc, maintenant, les jeunes sont moins attirés par l'objet livre. C'est pour ça qu'il faut le défendre.
Alors, Eugénie, votre héroïne, qui est jeune aussi, mais qui, elle, quand même, a été élevée dans une famille où on lit pas mal de bouquins, elle est assez investie en politique et son petit ami encore plus. Est-ce que c'est-à-dire qu'il faut être proche du pouvoir quand on veut vraiment, influer sur le cours des choses?
Alors, pour l'intrigue, j'ai évidemment imaginé que mes héros se retrouvaient confrontés aux politiques, mais je crois qu'un livre est plus puissant qu'un politicien. À travers un livre, on va pouvoir faire prendre conscience aux gens des réels problèmes en profondeur. La télévision ou les médias normaux ne jouent que sur l'émotion, et à la limite, c'est celui qui sortira un mensonge qui ne pourra pas être vérifié, qui aura le dessus. Donc, je voulais aussi évoquer ça, qu'il y a une transmission qui se fait par les livres qui est puissante et profonde, et une transmission qui se fait par les médias plus légers, qui fonctionnent sur l'émotionnel rapide et qui est beaucoup moins honnête et beaucoup moins importante.
C'est la même que celle qu'on voit peut-être sur les réseaux sociaux. Vous abordez aussi ça dans le livre et notamment même le dark web, le piratage, toutes ces choses qui finalement servent à manipuler les foules.
Oui, nous sommes à une époque où tout est possible, le meilleur et le pire. Et évidemment, les outils servent pour le meilleur et pour le pire. Ce que je voulais faire prendre conscience dans La Valse des âmes, c'est que le combat se fait sur plein de niveaux, y compris celui de la communication, y compris celui du web, y compris celui des politiciens, y compris celui du combat pour la littérature.
Bien sûr. Alors, il y a des gens qui sont présents dans nos vies, dans le livre, à toutes les étapes, c'est-à-dire qu'y compris dans les vies antérieures, et on les retrouve. Est-ce que vous y croyez qu'il y a des gens comme ça qu'on est destiné à rencontrer, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la vie dans laquelle on est?
Ah, moi j'aime bien l'idée en tant que romancier des familles d'âmes, Maintenant, je suis pas dans la croyance. Je crois qu'un romancier n'est pas fait pour croire. Il est fait pour se poser des questions, se poser des questions lui-même et poser des questions au lecteur. Chacun, après, selon ses convictions, ses intuitions, verra est-ce que ces questions ont du sens. Mais j'aime bien l'idée des vies antérieures parce que ça offre une perspective. S'il n'y a pas de vie antérieure, ça veut dire qu'on est, on meurt et après, il n'y a rien. Il y avait rien avant, il y aura rien après. Et je préfère l'idée, il y avait des choses avant et il y aura des choses après.
Dans le livre, il y a aussi toutes ces petites capsules, si j'ose dire, de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est le côté un peu humour du livre et en même temps avec des conseils de vie.
Oui, c'est une manière de faire un petit pas de côté. C'est comme si, dans un grand voyage, on s'arrêtait de temps en temps pour voir quelque chose de marrant, et puis on reprend le chemin. C'est aussi une manière aussi d'offrir à mes lecteurs des sujets de conversation pour les soirées, pour les dîners, des petites anecdotes marrantes. C'est pour ça que je mets en effet des recettes de cuisine, des anecdotes historiques ou des anecdotes de science.
Ou des blagues juives comme pourquoi est-ce que tu m'en veux, je ne t'ai pas encore aidé. C'est vrai ça. Pourquoi est-ce qu'on nous en veut, Bernard Werber?
Précisément parce qu'on a aidé et qu'il y a un système de... Comment dire? Si on regarde bien l'histoire, beaucoup de juifs, notamment les juifs de cour, aidaient les rois à financer leur guerre. Et une fois qu'ils avaient gagné ou ils avaient perdu, ils n'avaient pas envie de rembourser. Et quand on s'aperçoit de ça, on s'aperçoit qu'il y a eu y a un rapport de gratitude non assumé ou de volonté de ne pas vouloir payer sa dette qui a entraîné beaucoup de problèmes pour les juifs. Et je prends par exemple Philippe le Bel qui s'est fait prêter l'argent par les Juifs et qui au final les a expulsés de France parce qu'ils ne voulaient pas rembourser.
Oui, c'est pas très beau tout ça. Vous avez imaginé dans le livre une rencontre entre Bouddha, Pythagore et Zarathoustra, et même il aurait rencontré Bouddha à un moment, le prophète Daniel. Il y a vraiment des points communs selon vous comme ça dans toutes les
Je
spiritualités.
crois que l'an 500 avant Jésus-Christ, qui est l'an où vivaient et Pythagore et Bouddha, et Zoroastre et Daniel est une époque où, comment dire, c'est comme si on avait envoyé des âmes lumineuses pour éclairer le chemin. Il y avait aussi Confucius qui est arrivé en Chine. Mais j'étais très surpris quand j'ai vu que Pythagore et Siddhartha Gautama, donc le vrai nom de Bouddha, étaient contemporains et qu'il y en a un, donc Pythagore, qui est parti vers l'est alors que Gautama est parti vers l'ouest. Donc j'ai imaginé qu'ils se sont rencontrés. Alors que parce que tous les deux aimaient s'intéresser au sujet de réincarnation et tous les deux étaient végétariens et tous les deux respectaient la vie en général.
Que la leçon de tout ça, pour finir, Bernard Werber, c'est que la connaissance, c'est la chose la plus importante à partager.
Je crois que la connaissance, en tout cas de la vérité sur le passé, est un enjeu terrible de notre époque, parce qu'il y a beaucoup de révisionnisme, il y a beaucoup de gens qui veulent remettre en question l'histoire, parce que ça ne les arrange pas, et qu'il est très important pour nous d'être défenseurs de la vérité par rapport à la propagande, à toutes les propagandes qui sont en train d'infester, entre autres, Internet et les médias. Il faut quand même rappeler les faits tels qu'ils se sont passés réellement et non pas tels que tel groupe ou tel autre groupe de pression voudrait que ça soit passé pour que ça les arrange.
Merci beaucoup Bernard Werber d'être venu dans nos studios à Bruxelles. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle La valse des âmes chez Albin Michel. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est spirituel, c'est drôle, c'est une aventure en même temps qui vous emmène en Égypte, chez les Mayas, en Grèce et évidemment en 2024. Donc voilà, je vous le conseille. Bonne journée à vous, à très vite.
Merci.
C'était Best Seller en partenariat avec l'Heureux Séjour.